Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous prions pour que ton esprit nous parle, Seigneur, et que nos cœurs, Seigneur, soient disposés à recevoir ta parole dans toute la simplicité. Seigneur, merci de nous conduire et de nous parler, Seigneur, à moi le premier, Seigneur, avec clarté, Seigneur, afin que nous n'ayons aucune excuse, Seigneur. Seigneur, tu dis, Seigneur, que tu parles pour nous corriger, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous éclairer, pour nous diriger. Et nous voulons que ta parole, Seigneur, fasse son œuvre, Seigneur, dans nos vies. À toi la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 5. Luc au chapitre 5. À partir du verset 36 à 39. Luc 5, 36 à 39. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans de outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon ». C'est une parabole, comme on nous dit ici. Ça peut paraître un peu difficile à comprendre, mais le Seigneur utilisait des paraboles parfois pour nous, ça peut être difficile à comprendre, mais c'est un message qui est imagé. Et le Seigneur utilise ça parce que c'était pour donner une image aux personnes qui étaient avec lui. Et lorsque nous lisons le contexte, juste avant, Jésus va chez un publicain qu'on appelait Lévi, et Jésus va manger chez cet homme-là. Et les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque, les scribes, les pharisiens, sont dérangés, sont outrés. Ils se disent, mais comment lui qui est enseignant de la loi, comment lui qui est venu de Dieu, peut aller manger chez un homme de mauvaise vie? Et Jésus répond à ces questions des publicains. Il leur dit que c'est le médecin, le malade va voir le médecin. Et lui, Jésus, se considère comme le médecin. Il dit, c'est moi qui vais vers ceux qui sont malades. Je ne vais pas vers ceux qui se considèrent comme étant justes. Et juste après, d'autres viennent encore voir Jésus pour lui dire, mais la loi de Moïse dit qu'il faut jeûner. Les patriarches ont jeûné. Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme ceux de Jean-Baptiste? Jésus répond à ces gens, il leur dit, mes disciples sont avec moi parce que nous jeûnons de manière générale pour nous humilier, pour chercher la face de Dieu. Or, le Seigneur était avec ses disciples. Donc, il dit à ces gens, eh bien, ils n'ont pas besoin de jeûner parce que moi, le Seigneur, le Maître, je suis là en face d'eux. Donc, s'ils ont une demande à me faire, ils me la font directement. Mais, pour les pharisiens, les scribes, ce que Jésus disait ne cadrait pas avec ce qu'eux, ils avaient appris, ce qu'eux, ils connaissaient. Et ça renforçait encore leur idée selon laquelle Jésus n'est pas de Dieu parce qu'ils se disent, mais comment un homme qui prétend être de Dieu fait des choses différemment de ce que nous, on a toujours connu. Voilà pourquoi Jésus donne cette parabole. Il dit, personne ne met un habit neuf sur un vieil habit. Personne ne peut prendre de l'huile et mettre dans un vase ancien. Pourquoi? Parce que il y aura un conflit. Et il dit à la fin, celui qui habille le vieux, eh ben, il va rester sur son goût, il va dire, le vieux vin est meilleur. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus est venu apporter l'éclaircissement sur la loi. Il est venu enseigner ses disciples et tous les hommes sur la terre. Et pour comprendre l'enseignement de Jésus, eh ben, il faut s'humilier. Il faut recevoir l'esprit de Jésus. Et une fois qu'on a reçu cet esprit-là, on peut comprendre ainsi sa parole. Le vin nouveau, c'est quoi? Ce sont les recommandations du Seigneur. Lorsque le Seigneur dit, on te tape sur une joue, tu tends l'autre joue. Eh bien, comment on peut comprendre ça? Parce que eux, ils avaient la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc l'homme prend la vie, donne la mort, pardon, eh bien, il sera puni de la même peine. On va prendre aussi sa vie. Il coupe un œil, eh bien, c'est son œil aussi qui sera tué, enlevé. Et c'était cette logique, dans cette logique que les gens marchaient. Et Jésus vient expliquer, il dit non, moi, je viens expliquer la parole de Dieu. Je viens et il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'expliquer, pour l'accomplir, pour la rendre claire à tous. Mais pour la comprendre, il faut s'humilier. Il faut recevoir mon esprit. Sinon, tout ce que je fais, ça ne sera que du spectacle que vous n'allez pas comprendre. Effectivement, ces gens étaient dérangés. Ils se disent, mais comment il peut faire des choses comme ça? Alors que la loi de Moïse nous dit qu'un maître ne doit pas aller chez les publicains. Alors que la loi de Moïse nous dit de jeûner, de faire de telles cérémonies, telles choses. Et c'était des outres vieilles. Ça veut dire quoi? Ils avaient une conception erronée de la loi. Parce que même quand on lit la loi, ils ne la lisaient pas véritablement. Ils la lisaient selon leur désir pour interpréter à leur manière. Et Jésus dit, vous êtes des outres vieilles, des vieilles outres. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Quand je parle, eh bien, il y aura un conflit. Vous ne pouvez pas saisir cela. Et nous allons lire dans Marc chapitre 10 un exemple qui va nous aider et nous introduire dans l'exhortation d'aujourd'hui. Marc chapitre 10. 17 à 21. Marc 10, 17 à 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Marc 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Voilà cette histoire. Un homme vient voir Jésus. Il lui dit, bon maître. Et dans Matthieu 19, c'est écrit, bon maître, que dois-je faire de bon? Donc il ajoute encore, bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, bon, voilà ce qu'il faut faire. Et l'homme est fier de lui. Il dit, mais toutes ces choses dont tu parles, mais moi j'accomplis cela. Je suis fidèle à Dieu. J'honore mes parents. Je fais l'aumône. Je respecte le sabbat. Je suis au temple. Le Yom Kippour, le Shabbat, toutes ces fêtes, eh ben je suis fidèle par rapport au Seigneur. Et la Bible dit que Jésus l'aima. Mais Jésus lui dit, il te manque une chose. Ce que tu as, ta richesse, vends-la, puis viens et suis-moi. Alors, en méditant ce passage-là, c'est là que j'ai réalisé que on se dit chrétien, on vient à l'église. On est présent, parfois on est dans des équipes. On est là, dans des activités. Et par rapport à tout ce que nous faisons, eh ben on se dit, je suis chrétien. En fait, cet homme, sa logique, c'était quoi? C'était la moralité, c'était un homme bon. Moralement, parce que Jésus l'aima. Donc, Jésus pouvait voir si ce qu'il disait était faux ou vrai. Mais si Jésus l'aima, c'est que ce que cet homme disait était vrai. On se rappelle de la femme samaritaine lorsqu'elle parle à Jésus. Jésus lui dit, va me chercher ton mari. Elle dit, j'ai eu 5 maris. Mais Jésus lui dit, tu as dit vrai. Donc il savait. Donc il a aimé cet homme. Il a dit, c'est vrai ce que tu dis. Tu es correct. Moralement, devant la société, devant les pharisiens, devant tous les religieux, devant tout le monde, tu es correct. Mais pour me suivre, il ne suffit pas d'être correct. Je dis moralement parlant. Pour me suivre, il faut renoncer à soi-même. Pour me suivre, il faut abandonner cette logique selon laquelle je fais des choses et je suis correct devant Dieu. La logique qu'on appelle communément la logique des œuvres. Et cet homme était dans cette logique-là des œuvres. Comme je disais, nous aussi en tant que chrétiens, on peut être fidèle à l'Église, on est là, on suit le Seigneur, on est, voilà. Je suis présent aux activités, à telle réunion, à telle, voilà. Mais en réalité, c'est une logique des œuvres. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, et ça moi je l'ai pris pour moi-même, le Seigneur nous dit qu'en réalité, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait sa logique à lui. Puisque être correct, les païens aussi, nous lisons ce que Jésus dit, Jean, dans Matthieu 5, au verset 20. Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, 20, voilà ce que Jésus dit. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà ce que le Seigneur dit. Si votre justice n'est pas au-dessus de celle de pharisiens, si votre vie n'est pas au-dessus de celle de pharisiens, pourtant les pharisiens étaient des gens qui apparemment étaient corrects. Ils respectaient les lois, ils respectaient les lois de Dieu, les lois des Romains, de l'État. Ils respectaient toutes ces choses-là. Et pour eux, ça suffisait pour être correct devant Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, il dit, si votre justice n'est pas au-dessus de celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, vous ne serez pas sauvés. Et c'est là que j'ai compris, finalement, être chrétien, ce n'est pas être bon moralement. Ça, c'est la conséquence. Être chrétien, c'est recevoir la logique de Dieu, c'est être né de nouveau, c'est avoir reçu l'Esprit de Dieu. Et une fois qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, une fois qu'on a reçu la nature de Dieu, là, automatiquement, je dirais, par le Saint-Esprit, tout le reste découle. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas faire du mal, ne pas faire ceci, faire cela. En fait, ce n'est qu'une conséquence de la nouvelle nature. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parle à Nicodème, il dit, il faut naître de nouveau pour voir Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu. En réalité, il faut naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui agit. Ainsi, le vent souffle. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais tu entends quand même le bruit, tu sais que le vent te conduit. C'est cela. Et parfois, en tant que chrétien, nous sommes sur une logique morale. Eh bien, moi, je ne vole pas. Mais la personne qui dit « moi, je ne vole pas », parfois dans le cœur, tu vas voir qu'il a un problème avec un frère. Mais moralement, comme cet homme, il est correct, il dit « bon, moi, je ne vole pas. Moi, je suis honnête. Moi, je respecte le code de la route. » Mais en même temps, tu verras qu'il a un problème. Peut-être avec son mari, avec sa femme. Peut-être qu'il a un problème tout simplement parce qu'il ne supporte pas, il n'a pas l'amour par rapport aux païens. Mais moralement, il est correct. Moralement, il est correct. Quand on le voit, on dit « ah oui, lui, il est pieux, il est bien. » Mais en réalité, dans le cœur, peut-être ça ne va pas. Et le Seigneur dit dans Amos 3, il dit « deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont concertés, s'ils ne se sont pas mis d'accord. » Parce qu'à un moment donné, il y aura un conflit. Voilà pourquoi nous avons lu Luc 5 où Jésus dit « pour recevoir le vin nouveau, il faut d'abord être une outre neuve. Parce que sinon, il y aura un conflit. On peut être correct. On est ponctuel au travail. On calomnie pas les gens. On peut être correct dans ce sens-là, mais vis-à-vis de Dieu, ne pas être en accord avec lui. C'est possible. Lorsque le Seigneur te dit, on te tape sur une joue, tends l'autre. C'est dans les deux sens, hein. C'est au sens littéral, mais c'est aussi au sens où quelqu'un dit des faux témoignages, t'accuse, te fait mal. Le Seigneur dit, tends l'autre joue. Ah, c'est là que le bât blesse. Pourtant, je ne frotte pas dans le métro. Mais quand on me critique, ah là, j'ai là, Seigneur, là, Seigneur, c'est trop. Mais pourtant, dans le reste, dans les autres domaines, on est correct. L'exhortation de ce soir, c'est être chrétien, c'est accepter la logique du Seigneur. Et nous allons voir quelques points qui résument un petit peu la logique du Seigneur en tant que nous en tant que chrétiens, parce que le plus important, c'est comprendre ce qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, comme on a dit. Donc être correct moralement, ce n'est pas ça que le Seigneur attend, parce que ça, c'est les œuvres. Ce que le Seigneur attend, c'est qu'on soit transformé, on soit né de nouveau. Et lorsqu'on est né de nouveau, eh ben, on intègre la logique du Seigneur, la logique du pardon, la logique du sacrifice. Il y a des chrétiens, on va en parler. Tu es juste correct. Tu es correct. Mais on t'appelle, on te dit, bon, bien-aimé, on a besoin de toi à 3h du matin au Havre pour aller prier pour quelqu'un. Ah, dans le cœur, là, il y a la colère. Moi, je voulais dormir. Mais dans la vie de tous les jours, eh ben, tu es correct. Le Seigneur nous dit, eh ben, une chose te manque. Et je pense que c'est la plus importante. Voilà pourquoi il dit, il est difficile aux hommes qui sont riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples sont étonnés. Mais qui peuvent être sauvés? Être chrétien, c'est accepter la logique du Seigneur. Être chrétien, ce n'est pas juste être bon moralement. Comme Jésus dit, les pharisiens, c'était des gens aussi qui étaient corrects. Aux yeux des humains, ils étaient parfois même irréprochables. Lorsque Jésus parle à cet homme, c'est écrit, c'est pour ça qu'on a lu Marc 10, il dit, Jésus l'aima, Jésus était content de lui. Mais il dit, tout ce que tu cites là, c'est bon. Mais accepte maintenant d'intégrer la logique de Dieu, la logique du Seigneur. Et nous commençons par le premier point, c'est la logique de mourir à soi-même. Comme nous l'avons dit, on peut être correct, on respecte le règlement à l'école, on respecte nos parents, on les honore, mais lorsqu'on te touche, on te touche à ta personne, là, on voit, comme certains disent, on voit de quel bois je me chauffe. Pourtant, sur tous les autres points, eh ben, on est irréprochable. Lorsqu'on pose la question aux gens, ils disent oui. Lui, il est bon. La logique de mourir à soi-même, c'est cela. Et Jésus dit à cet homme, tout ce que tu as, tout ce qui est cher, tout ce qui t'appartient, vends-le et suis-moi. Lorsque cet homme vient voir Jésus, lorsqu'il dit tout ce qu'il fait, voilà, je donne la dîme. C'était des choses qui étaient écrites. Et donner la dîme, c'était une marque de respect vis-à-vis de Dieu. Et c'était en quelque sorte aussi un sacrifice, parce que c'est quelque chose qui te coûte. Je ne m'entends pas. C'est quelque chose qui nous coûte de donner la dîme. Donc c'était un sacrifice aussi pour lui. Et donc avec tout ce qu'il faisait, eh ben, il se disait, eh ben, là avec ce que je donne, ce que je fais pour le Seigneur, eh ben, je suis bon, je suis correct. Mais cela n'a pas suffi pour le Seigneur. Cela n'a pas suffi pour le Seigneur. Le Seigneur lui dit, renonce à tout ce qui est cher. Est-ce que c'est ton nom à toi? Est-ce que c'est le nom de ta famille? Est-ce que c'est ta fierté? C'est cela, voilà pourquoi Jésus lui dit, eh bien, une chose te manque, va encore plus loin. Va plus loin. Tout ce que tu dis, c'est bon. Maintenant, fais maintenant ce que les pharisiens ne font pas. Mourir à eux-mêmes, ça, ils ne voulaient pas. Un mort, eh bien, il ne réagit plus. Il ne réagit plus à un cadavre. Qui a vu un cadavre bouger? Ce n'est plus un cadavre. Un mort ne réagit plus. Il est là, on le manipule. Parfois, on le lave, on le nettoie, on l'habille, voilà. C'est fini. Il ne réagit plus. C'est cela. Mais ça, c'est quelque chose qui demande notre collaboration. On a le Saint-Esprit. Oui, c'est Dieu qui opère la nouvelle naissance en nous. Mais ça, c'est quelque chose qui demande notre collaboration. Voilà pourquoi Jésus n'a pas imposé à cet homme pour lui dire, eh ben voilà, tu es obligé. Non. Il dit, ce que tu dis est bien, mais il y a un point qui manque. Maintenant, à toi de voir. Et l'homme est parti triste. L'homme est parti triste. Nous lisons dans Philippiens 2. Philippiens 2, ce sont des passages que nous connaissons. Et cette exhortation, moi, je l'ai pris pour moi-même aussi. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens toujours, il dit, je ne cesse de vous rappeler ces choses car elles sont salutaires pour vous. Et les points qu'on cite, ce sont des points qui sont essentiels pour la vie chrétienne. Lorsque on n'a pas compris ces points-là, il y aura un conflit. On se dira, mais Seigneur, mais je ne fais de mal à personne. Mais Seigneur, mais regarde, je suis correct. Mais Seigneur, mais je suis à jour par rapport à mes offrandes. Mais Seigneur, mais. Et le Seigneur va permettre qu'il y ait du vin nouveau. Les vins nouveaux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parfois des circonstances qui vont arriver dans la vie. Pour qu'on crie à Dieu, pour qu'on dise, Seigneur, mais je ne comprends pas. Mais celui qui est une outre neuve, lorsque ces circonstances viennent, qu'est-ce qu'il dit, Seigneur, aide-moi. Voilà. Je comprends que là, ça me dépasse. Mais celui qui est une vieille outre, il va dire, mais je suis correct, j'ai tout fait, tout est bon ici. Mais pourquoi ça vient? Et il va se rebeller contre Dieu. Parce qu'il ne parle pas le même langage. Et nous lisons Philippiens 2, 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Voilà ce qui est écrit.
Alléluia.
Jésus-Christ a renoncé à son droit de fils de Dieu. Lui qui est fils de Dieu, lui qui vient du ciel. La Bible dit qu'il a paru sur la terre comme un simple homme. Et il est écrit dans Ésaïe 53 qu'il était comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Et il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il était sans péché. On ne parle même pas de correct moralement. Il était sans péché, mais il a accepté de se laisser faire. Qu'on se comprenne. Si on n'a pas saisi ça, eh ben on aura une vie chrétienne triste. On dira, mais Seigneur, mais pourquoi? Et là, c'est là que le diable va venir pour te dire, mais voilà, Dieu t'a abandonné. Mais voilà, tu es chrétien, regarde comment les gens te traitent, te maltraitent. Mais voilà, tu es chrétien, tu es correct, n'est-ce pas? Tu es correct. Et malgré que tu corriges, qu'est-ce que ça t'apporte? Abandonne Dieu tout simplement. C'est l'exemple de qui? De la femme de Job. Qui vient voir Job pour lui dire, mais tu restes intègre malgré ta situation. Mais Job aimait le Seigneur. Il est resté fidèle à Dieu. Et la Bible dit que Jésus-Christ a accepté. Un jour, il se présente, on le présente devant Caïphe, le souverain sacrificateur. Et c'est écrit qu'ils ont choisi des faux témoins qu'ils ont mis devant pour parler. L'un dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il raconte l'autre. Caïphe, lui-même, le juge, il pose la question à Jésus, mais défends-toi, qu'est-ce que tu peux dire? Et la Bible dit, il garda silence, il est resté calme. Il dit, mais est-ce que tu es le fils de Dieu, comme ils disent? Il dit, c'est toi qui l'as dit. Et là, il dit, oh voilà, il n'y a même pas besoin de témoins parce que lui-même, il vient de blasphémer contre Dieu. On le présente à Pilate, la même chose. Ce sont les juges eux-mêmes qui implorent Jésus de se justifier. Où est-ce qu'on a vu ça? Le juge implore l'accusé de se défendre. Mais il n'a rien dit. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis. C'est cela. On peut être correct moralement. On peut respecter les règles, mais refuser de mourir à nous-mêmes. Refuser de mourir à nous-mêmes. Mais comme Dieu est fidèle, Dieu permettra du vin nouveau, des situations. Le but, c'est pour nous réveiller, pour nous dire, mais Seigneur, là, j'essaye de me battre, mais ça ne marche pas. Aide-moi. C'est ça le but. C'est ça le but de Dieu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, être chrétien, ce n'est pas seulement respecter les devoirs moraux qu'on a. Être chrétien, c'est intégrer la logique de Dieu, selon laquelle on peut être juste, mais accusé faussement. Et comme l'apôtre Paul dit, s'il est possible, accepter même l'injustice, accepter cela. Paul lui-même a vécu cela. Il était en prison, les gens se moquaient de lui en disant, mais voilà, s'il est de Dieu, mais voilà, il est en prison, voilà, Dieu l'a frappé. Il dit, ce n'est pas grave. Ces gens-là, tout le monde voit que ce sont des serviteurs du ventre, mais comme ils prêchent Jésus, c'est l'essentiel. Bien-aimé, pour arriver à une telle compréhension des choses, il faut avoir été brisé, humilié par le Seigneur. Il faut avoir aussi un amour pour le Seigneur, qu'on t'accuse faussement. Et que tu ne te défendes pas. Parce que se défendre, c'est un droit. On peut se défendre. La loi nous le dit. Mais il y a une loi qui est au-dessus de cette loi qui va te dire, tais-toi. Ah, c'est ça, c'est de ça que nous sommes en train de parler. La loi te dit, défends-toi, mais Dieu te dit, tais-toi. Qui suivre? Eh bien, la loi de Dieu. C'est ça le véritable chrétien. Le légaliste lui dira, non, je veux me justifier. Je veux prendre un syndicaliste au travail, je veux prendre un avocat, je veux prendre, voilà, c'est ça. Il dira, non, là, c'est trop. En plus, je suis dans mon droit, je suis correct. Mais Dieu va te dire, accepte. Matthieu 16, 24. Quiconque veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Chaque jour, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. La croix, c'est l'instrument de la mort. C'est cela. C'est cela. Et lorsqu'on intègre cette logique-là, on peut supporter les situations, on peut les accepter. Mais quand on n'a pas cette logique-là, ça sera difficile. On sera dans les plaintes pour dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi? Mais quand on a accepté d'être mort, peu importe. Ce qui compte, c'est la vie de Dieu. Quand on meurt ainsi, c'est la vue de Dieu qui s'exprime. C'est la nature de Dieu qui s'exprime. Ce n'est plus nous qui nous exprimons. Parce que ce que le Seigneur veut, quand il dit de renoncer à nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, c'est pour que lui puisse s'exprimer. C'est cela. Il y a des gens qui se sont convertis. Les membres de famille, parfois, se moquent de toi, te lancent de colibés. Il y en a même certains qu'on appelle Jésus pour se moquer. Mais quand on n'est pas mort à soi-même, à un moment donné, on va réagir. On va dire, bon, là, c'est bon, là. Trop, c'est trop. Et là, on sort même de la voix de Dieu. Le païen lui-même va te reprendre et vous dire, ah, tu t'énerves. Mais quand on est mort, eh ben, on se moque de toi comme ça, tu acceptes. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le chrétien n'est pas seulement bon moralement, mais il accepte ce que Dieu permet. Mais pour accepter ça, eh ben, il est mort. Réunion de famille, fête de famille, on ne t'en parle même pas. Tu apprends seulement par des gens, par des cousins éloignés que, ah tiens, il y a eu... Pour accepter ça, eh ben, il faut être mort. Parce que si on n'est pas mort, ça va travailler, on va dire, mais Seigneur, même ma famille, il me fuit, il m'évite. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui est correct, c'est celui qui accepte la logique de Dieu, qui accepte même d'être rejeté par les siens. Ça a été le cas pour Jésus. Et la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était le Fils de Dieu, qui avait tout pouvoir, mais il a accepté de se laisser faire. Il était correct. Parfois, il nous arrive des choses, puisque nous avons mal fait, puisque nous avons péché. On se rend compte, on demande pardon à Dieu, mais Jésus était correct, juste, mais jusqu'au bout, il a accepté. Et j'aime beaucoup Ésaïe 53, 6 qui dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Quelqu'un qui te fait souffrir, il te tape, il se moque de toi, mais tu restes là la bouche fermée. Bien-aimé, c'est là que le Seigneur veut nous amener. C'est là que le Seigneur veut nous amener. Non seulement il n'a pas ouvert la bouche, mais il a aimé encore. Parce qu'il peut nous arriver encore de nous taire, mais dans le cœur, on a de la haine. Disons-nous que nous ne sommes pas en accord avec le Seigneur. Même si je suis régulier à l'église, même si je suis présent à l'intercession, même si c'est moi qui prêche et qui dirige l'intercession, mais avec le Seigneur, on n'est pas en accord. Acceptons cela. On peut être correct aux yeux des hommes. On peut être dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. On cherche, on voit qu'on n'a pas péché, mais on comprend que là, c'est le Seigneur qui veut me briser. C'est le Seigneur qui veut enlever ce qui, en moi, ne glorifie pas son nom. Comprenons cela. Et tant qu'on n'a pas compris cela, il y aura un conflit. On sera toujours dans les « mais pourquoi ?»« Mais pourquoi moi ?»« Mais pourquoi moi ?» Où est Dieu ? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lisons Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Voilà un deuxième point, c'est la logique du sacrifice. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait se sacrifier. Un sacrifice, c'est quelque chose qui a de la valeur, qu'on accepte de perdre. C'est volontaire. Ce n'est pas un ordre. Lorsque Dieu parle à Abraham, dans Genèse 22, il lui dit, Abraham, lève-toi, prends ton fils, il précise, ton unique, va me le sacrifier. Ce n'était pas facile pour Abraham. Comme le bien-aimé disait tout à l'heure, nous qui sommes parents, de voir que ton enfant devant toi parfois tombe, bon, on est perturbé, on t'appelle, l'école t'appelle pour te dire ton enfant est blessé. Eh bien, ça nous perturbe, ça nous dérange. Mais là, regardez l'ordre que Dieu donne à Abraham. Il dit, ton fils, c'est le seul. Déjà, tu as eu du mal à l'avoir. Mais maintenant que tu l'as, c'est toi-même qui vas l'égorger. Imaginons un peu la scène. Encore que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, on peut accuser le coup. Mais là, tu sais que c'est toi-même qui va tuer. Et en plus, pour aggraver, l'enfant pose la question, il dit, mon père, mais il y a le bois, il y a ce qu'il faut pour le feu. Mais le sacrifice lui-même, il est où? L'animal est où? Ha! Il dit, Dieu pourvoira lui-même. Dieu sait comment il fera. Dieu sait comment il fera. Ce n'était pas facile pour Abraham. C'était difficile. Tout ça pour dire que le sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Et Dieu veut qu'on entre dans cette logique, la logique du sacrifice. Comme j'ai dit, on peut être correct moralement, mais ne pas avoir l'esprit de sacrifice. Comme on le dit souvent, tu es dans ta voiture, il pleut, tu es pressé, tu vas dans une direction, il y a un bien-aimé qui habite à 15 km. Bon, tu fais comme si tu n'as pas vu et puis tu passes. Non, le sacrifice, c'est tu t'arrêtes. Parfois, tu n'as même pas le carburant. Tu dis, bon, Dieu pourvoira. Bien-aimé, monte, on y va. C'est un sacrifice, parce que moi, je vais dans l'opposé, l'autre va dans l'autre direction. C'est ça. J'ai bien dit, on peut être correct, dans la vie de tous les jours en tant que chrétien, mais Dieu va nous amener dans des situations où on devra se sacrifier. C'est ça que Jésus dit, que votre justice soit comment? Soit au-dessus, surpasse celle des pharisiens. On se rappelle, et je pense qu'on va le lire, l'histoire du bon samaritain. Le prêtre qui passe, il voit le type par terre, il voit l'homme par terre, il se dit, bon, ah. Il se rend au temple. Le lévite qui passe, la même chose. Le samaritain qui passe, il s'arrête, il prend la personne, il va le conduire. Pour qu'on soigne. Et Jésus pose la question. Il dit, maintenant, de ces trois personnes-là, qui a été le prochain? Ils ont eu du mal à répondre, le Samaritain, parce qu'ils étaient en conflit avec les Samaritains. Et en plus, les Juifs considéraient les Samaritains comme étant des sous-hommes, parce que c'était des personnes qui étaient mélangées, des Juifs, avec les gentils d'autres peuples. Et il ne s'adressait même pas la parole. On se rappelle dans Jean 4, lorsque Jésus parle à cette femme samaritaine, elle dit, mais on ne s'adresse pas la parole. Vous, vous êtes au-dessus, nous sommes en dessous. C'est ça que vous considérez. Et là, c'est le samaritain qui a aidé la personne. Et l'enseignement de Jésus, c'était pour dire, eh ben oui, les religieux, c'était des gens qui étaient corrects, selon eux, mais ils n'avaient pas compris la logique de Dieu. La logique de Dieu, ça se résume en quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et avec cette logique, on peut se sacrifier. On peut être correct, comme j'ai dit. Mais lorsqu'il s'agit de se sacrifier, on a son repas. Quelqu'un vient, il sonne à la porte, on se dit, ah, bon, le repas va attendre. Je mangerai même à 15h, c'est pas grave. Et quand c'est comme ça, la personne reste jusqu'à 20h. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous faire entrer dans cette logique de partage. C'est ça. On peut être correct, mais le Seigneur va nous amener dans une logique où on va se sacrifier, on va partager. On dit, bon, le peu que j'ai, même si je suis sûr que je ne vais pas me rassasier, eh ben, on va partager. C'est cela. Et nous, en tant que chrétiens, on doit intégrer cela. Là où les pharisiens, les scribes n'étaient pas arrivés, ben, nous, en tant que chrétiens, puisque nous avons l'Esprit de Dieu, ayons aussi cet esprit de sacrifice, se sacrifier pour les autres. C'est cela. Il y a des collègues qui me racontaient, moi j'avais fini mon service, et ils me racontaient qu'il y a eu une situation, la chef de service n'était pas là, et il fallait aller chercher un jeune à deux heures du foyer. Et donc la personne qui, c'est la coordinatrice, qui donne l'instruction aux collègues en disant, bah, il faudra aller chercher le jeune à la gendarmerie. Donc l'un de vous, comme vous serez trois en soirée, que l'un de vous aille. Alors, à partir de 18h, cette femme qui parlait là était d'astreinte. Donc à partir de 18h, c'est l'astreinte qui s'occupe de tout ce qui est extra foyer. Et donc les collègues étaient en colère, ils disent, mais non, mais pour que tu te prends, c'est toi qui vas de toutes les façons. S'ils nous appellent une demi-heure avant 18h, nous on ne bouge pas, c'est toi qui vas aller, parce qu'on ne va pas faire la route. Alors il y a eu beaucoup de problèmes, ça a crié parce que les autres ne voulaient pas aller. Ça a crié. Et à ce moment-là, donc il y a le collègue qui faisait la nuit, qui est chrétien aussi parmi nous, qui arrive à 18h pour faire la nuit. Et il arrive, on lui explique la situation, il dit bon, il faut aller chercher un jeune à la gendarmerie. En plus, c'est un jeune qui nous fait souffrir. Il nous fait souffrir. Donc quelque part, on se dit c'est bien même qu'il reste là-bas, quoi. Et le collègue arrive, on lui explique la situation. On dit voilà, depuis 17h, la gendarmerie a appelé, ils attendent que quelqu'un aille chercher le jeune. Bon, le collègue dit bon. Donc c'est ça le problème. Il dit mais j'y vais, il n'y a pas de problème. Donc il a pris les clés, il est parti. Et les collègues, on en parlait après, ils disent mais de toute façon, lui on sait que il allait accepter, comme il est chrétien. Et il me parle aussi à moi, il dit toi tu vas l'accepter. Je dis oui, j'ai l'accepté. Et il y a un autre collègue qui dit, oui, mais vous n'avez pas été sympa. Comment quelqu'un qui fait la nuit, vous le laissez faire cette route-là, alors que vous finissez. Donc, prendre la voiture, aller. Ils disent, oh, non. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est là que m'est venue cette prédication. Je me suis dit, effectivement, le chrétien, c'est celui qui est au-dessus. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est que nous, on a l'Esprit de Dieu. Là où il y a des conflits, même si tu es fatigué, le collègue faisait la nuit. Il est arrivé, il a dit, bon, moi, je veux le faire. Celui qui ne veut pas, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le faire. C'est ça l'esprit de sacrifice. Mais ça, on ne verra pas un verset écrit dans la Bible, lorsque tu feras la nuit, tu iras. Non, il n'y a pas de verset là-dessus. Mais on a le Saint-Esprit. Et ayant l'esprit de Jésus, eh ben, comme ça, il y a un conflit, je suis là présent pour prendre mon service, eh ben, j'y vais. Ce n'est pas grave. C'est ça l'esprit de sacrifice. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Non pas seulement, je suis chrétien, je suis bon, j'évangélise. Ah, le Seigneur va nous attendre sur des points concrets, clés. Et quand j'ai vu ça, effectivement, j'ai pensé, je me suis dit, oui, effectivement, il n'y a que celui qui a l'esprit de Dieu qui peut voir les choses de cette manière-là. Parce que là, il était musulman, pourtant on discute souvent, il parle de Dieu. Mais ce jour-là, il était catégorique, il a dit, non, moi je ne bouge pas. Mais comme la chef n'était pas là, c'était la fête. Mais il a dit, moi, je ne bouge pas. Moi, je reste là. L'autre aussi dit, moi, je ne bouge pas. L'autre est athée. Et c'est le chrétien qui est arrivé, qui a dit, il n'y a pas de problème. Même si je fais la nuit, j'y vais. Et c'est la collègue même qui dit, non, mais toi, tu fais la nuit, tu seras fatigué. Il a dit, c'est pas grave, j'y vais. Mais après ça, le musulman était gêné. Il est allé voir le collègue pour lui dire, pardon, j'ai mal réagi. En fait, il a été entraîné par l'autre. Comme l'autre a dit, non, moi, je ne vais pas, je ne suis pas un pigeon. Lui aussi s'est dit, bah, moi non plus, j'y vais. Mais l'acte du sacrifice a produit quelque chose, a produit la vie. C'est là que je veux en venir pour dire, lorsqu'on se sacrifie, ça produit quelque chose. Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix et nous sommes là aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ s'est donné à la croix et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Lorsqu'on accepte de se sacrifier, eh ben, Dieu agit. Le collègue musulman lui-même a pris le téléphone et il m'en parle. Hein. Il me dit, j'ai appelé le collègue pour lui demander pardon. Parce que quand je suis rentré, j'étais dérangé. Je me suis dit, mais je n'aurais pas voulu qu'on me le fasse à moi. J'arrive, je fais la nuit, les collègues ne veulent pas partir et je pars. Il a dit, non, je n'aurais pas voulu. Il a demandé pardon. J'ai dit, voilà. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Que le musulman voit qu'entre nous, les disciples du Seigneur, et eux, le musulman, il y a une différence. Ce n'est pas le même Dieu. Il y a une différence. Nous, on a le Saint-Esprit. Comme j'ai dit, ça n'a pas été toujours une partie de plaisir pour le bien-aimé de prendre la voiture, d'aller. Voilà. En plus, pour un jeune qui nous fait souffrir. Encore un jeune qui est correct, on se dit, bon, on le fait quand même. Avec joie, il y a quand même une satisfaction derrière. On se dit, bon, mais quelqu'un qui vous fait souffrir. Mais l'acte du sacrifice a produit quelque chose. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, non, on a mal agi. On était simplement sur la colère et puis voilà, sur nos positions, on est resté. Mais le bien-aimé, lui, s'est sacrifié. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Ne restons pas seulement corrects. Dire des belles paroles, tout ça n'est pas mauvais. Mais le Seigneur veut que nous puissions manifester sa nature, comme il dit dans Matthieu 5, 13 jusqu'en bas. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et c'est au verset 20 maintenant qui dit que votre justice, notre justice à nous chrétiens, doit être au-dessus. un chrétien, c'est celui qui doit apprendre à se sacrifier. Se sacrifier pour sa famille. Se sacrifier pour parfois ses amis. Se sacrifier lorsqu'il y a une situation que personne ne veut toucher à la situation ou agir. Ben lui, il le fait. On se souvient, on connaît souvent l'histoire qu'on nous raconte ici. Le serviteur de Dieu au Maroc, un frère qui, lorsque c'est son tour, il ne veut pas faire à manger. Et qu'est-ce que le serviteur de Dieu dit ? Bon, à partir d'aujourd'hui, comme tu ne veux pas, moi je vais le faire. Mais lorsqu'il prend cet engagement-là, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le prend, mais en disant cette phrase-là, le Seigneur aussi le soutient. Et il dit, le jour où il a dit cette phrase-là, il a été libéré. Mais non seulement lui, il a été libéré, mais le méchant lui-même aussi a été dérangé. Il est venu pour dire, non, écoute, je blague. Ah, ben voilà, c'est ça. Et c'est là que le Seigneur va nous amener des fois. Et quand ces situations arrivent, on se dit, mais Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi toujours moi ? Mais pourquoi ? Mais oui, mais parce que le chrétien est appelé non seulement à être correct, comme j'ai dit, ça ce n'est qu'une conséquence. Obéir aux instructions, aux recommandations de l'État, ça ce n'est qu'une conséquence. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Mais en réalité, le chrétien doit pouvoir être en mesure de se sacrifier. C'est ça. C'est ça le chrétien. Conflit dans la famille, oh ceci, cela, cela. Le chrétien arrive, qu'est-ce qui se passe ? Oh voilà ce qui... Bon, je prends la responsabilité. Voilà. Voilà. Et comme j'ai dit, lorsqu'on se sacrifie, eh ben, Dieu agit. Il y a comme une perte. Il y a comme un dépouillement. Mais il y a une résurrection qui suit derrière. Jésus s'est sacrifié. Et nous, nous sommes là aujourd'hui pour témoigner de sa gloire. Amen. C'est cela. Ayons l'esprit de sacrifice. Je dis moi-même le premier. Ayons l'esprit de sacrifice. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui qui est correct, qui parle bien, qui évangélise. Non. Parfois, tu vas évangéliser une personne qui n'a pas mangé. Tu as 5 euros dans la poche, tu as déjà fait tes programmes. La personne te dit, oui, mais là, j'ai faim. Tu n'as que 5 euros. Tu dis, bon, Seigneur, c'est ça, le chrétien. Le commun de mortel, lui, voilà, il va faire ce qu'il a à faire. Et puis, c'est son argent. Et non, il faut que je mange, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais le chrétien, lui, il va se sacrifier. Ce n'est pas ma direction, mais ce n'est pas grave. Je veux perdre du temps, mais je le fais parce que j'aime le Seigneur. Voilà, là où le Seigneur nous attend. Et c'est ce que Jésus a dit à cet homme. Tu es correct, c'est bien, mais il te manque une chose. Épouse maintenant la logique de Dieu. Amen. Nous continuons la lecture dans Matthieu, au chapitre 18. Matthieu 18. À partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il se mit à compter et on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Voilà une autre logique du Seigneur. C'est la logique du pardon. La Bible dit que Dieu vous traitera durement si vous n'avez pas pardonné comme lui-même nous a pardonné. C'est cela. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut que nous puissions pardonner. Voilà cet homme à qui une dette est remise. On dit, bon, voilà, il a supplié le maître. Le maître dit, d'accord. Mais il part. Voilà qu'il se venge sur l'autre. Et le maître apprend cela. Il dit, mais tu es méchant. Tu viens me voir pour négocier. J'annule la dette et toi, tu vas suivre l'autre pour te venger sur lui. Alors, c'est une image pour nous dire quoi ? Que lorsque nous ne pardonnons pas, nous agissons comme cet homme qui a été méchant parce que si nous sommes aujourd'hui sauvés, c'est parce que nous avons été pardonnés en Jésus. Dieu nous a aussi pardonnés. Dieu nous a pardonnés. Et il continue de le faire. Comme c'est écrit dans 1 Jean 1,9. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il nous pardonne. Il oublie même. Mais lorsque nous, dans notre cœur, nous refusons de pardonner, ben ça, c'est insupportable pour notre Père. C'est cela. La logique du chrétien, c'est la logique du pardon. C'est la logique du pardon. Et il y a une chose qui fait que nous avons souvent du mal à pardonner, c'est que bien souvent nous estimons être les seuls victimes lorsque, par exemple, quelqu'un te fait du mal. Souvent, à ce moment-là, on pense au mal que cette personne-là nous a fait. Mais on oublie une chose, on oublie que parfois, nous aussi, on fait du mal à d'autres personnes. Ah, mais voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà comment il s'est comporté. Parce qu'on est centré sur notre personne. Mais quand on se souvient que, ah, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai fait souffrir mes parents. Moi aussi, il m'arrive d'être désagréable avec ma femme, mon mari. Moi aussi, il m'arrive de blesser un frère ou une sœur. Qu'est-ce que ça procure ? Ça procure l'humilité. On se dit, bon, on équilibre. On se dit, oui, c'est vrai. Bien souvent, on a du mal parce qu'on regarde à nous-mêmes, à l'instant. Voilà comment il m'a parlé. Voilà ce qu'il a dit sur moi. Et là, voilà. C'est en train de bouillir, de bouillir. Mais quand on se souvient, et c'est ce qu'on va lire, Ecclésiaste 7, 20, 22, qui nous dit, qui répond à cette question-là. Ecclésiaste 7, 20 à 22. Nous lisons Ecclésiaste 7, 20 à 22. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Voilà maintenant ce que le verset 22 nous dit. Car ton cœur a senti bien des fois que toi-même, tu as maudit les autres. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Au verset 20, ça commence en disant, non, il n'y a pas un seul qui est juste. Donc, quand on refuse de pardonner, c'est comme si nous-mêmes on est juge, on se dit, non, là, l'autre m'a fait du mal, eh ben, je suis en droit de ne pas pardonner, souvent motivé par la colère. Je pense qu'on a eu une prédication sur la colère. La colère, c'est comme une drogue où tu ne vois que toi. Mais voilà ce que c'est écrit. On nous dit, non, il n'y a pas un seul qui est juste. Et verset 21 nous dit, fais attention à toutes les paroles que tu entends, parce que en cherchant à entendre tout, tu risques d'écouter même ton serviteur te maudire, même ton enfant te maudire, parler mal sur toi. Et au verset 22, ça nous dit, alors sache que toi-même, il t'est arrivé des fois de faire aussi du mal aux autres. Amen. Lorsqu'on réfléchit à ça, ça nous amène à nous humilier. Ça nous aide. En tout cas, moi, lorsque j'ai découvert ce verset-là, je ne le connaissais pas, Ecclésiaste 7:21, en lisant, je me suis dit, mais effectivement, voilà la réponse est dans la Bible. On se plaint d'un tel, on se plaint d'un tel, tel m'a fait ci, tel m'a fait, tel a été trop méchant, tel. Mais quand on se souvient que nous-mêmes, il arrive que nous fassions du mal à quelqu'un, ça nous ramène les pieds sur terre. On se dit, ah, voilà, maintenant il faut que j'équilibre. C'est ça. Qui peut dire ici qu'il n'a jamais fait du mal à quelqu'un? Qui peut le dire? Parfois même inconsciemment, on peut dire des paroles, ça blesse une personne. La personne vient te voir pour dire, voilà, il y a ceci, il y a cela que j'ai dans mon cœur. Mais nous, on ne s'est même pas rendu compte de cela. On ne s'est même pas rendu compte de cela. Et la Bible nous dit, souviens-toi que toi aussi, il t'est arrivé de mal parler sur quelqu'un. Il t'est arrivé aussi de mal te comporter sur quelqu'un. Il t'est arrivé aussi de blesser quelqu'un qui t'est cher. Alors la conclusion, c'est quoi? C'est que puisque tu as fait ce constat-là, alors toi-même, sois aussi correct. Amen. C'est cela. C'est là que le Seigneur veut nous faire rentrer. La logique du pardon. La logique du pardon. Et ça, ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Humainement parlant, c'est difficile. Humainement, c'est difficile. Mais le Seigneur nous dit que notre justice, Matthieu 5:20, soit au-dessus, surpasse celle des pharisiens. Le chrétien, c'est celui qui est appelé à pardonner. Étienne a été lapidé. Pendant qu'il était lapidé, il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Jésus-Christ a dit la même phrase à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà là où le Seigneur veut nous mener. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être correct moralement, mais le Seigneur va nous amener plus loin. C'est ça. On parle mal sur toi. Le lendemain, tu rigoles avec le collègue qui a mal parlé. Parfois, les gens vont dire, mais t'es pas au courant. Et oui, je suis au courant, mais j'ai pardonné. Ah, c'est ça. Le commun mortel va dire, attends, je l'attends. On va voir. J'attends qu'il m'adresse la parole. Ça, c'est l'homme normal. Parce qu'il pense qu'il est dans son droit. Mais le chrétien, il est au-dessus de cela parce qu'il a la nature de Dieu. Il n'est pas seulement bon. Il ne fait pas les choses seulement parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais il fait les choses puisqu'il a l'Esprit de Dieu. Il est au-dessus. Voilà. C'est une autre neuve qui a reçu l'enseignement du Seigneur. Et tout ça est écrit dans Matthieu 5. C'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 5. Lorsqu'il dit que votre justice soit au-dessus des pharisiens. Il dit, on te tape sur une joue, donne l'autre. Il dit, ne résiste pas aux méchants. Il dit, tout ça c'est dans Matthieu 5. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est la logique de la grâce. Un autre point. Nous avons été sauvés, comme c'est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Afin que personne ne se glorifie de ses œuvres. Que personne ne se glorifie de ses œuvres. Et nous, dans notre marche de tous les jours, on doit marcher avec cette logique-là. La logique de la grâce. Combien de fois il nous est arrivé de sentir que je n'arrive même pas à prier. Même 5 minutes, je n'arrive pas. Et là, on est dans la culpabilité. Parce qu'on se dit quoi? C'est la logique des œuvres. La logique de la morale. On se dit, un chrétien devrait prier. Mais Seigneur, je n'arrive pas à prier. Alors, plutôt que de s'humilier, on est dans la tristesse. On voit l'autre dans la joie qui chante. On voit l'autre dans la joie. Nous, on est dans la tristesse. Non. On dit, Seigneur, je n'arrive pas. Je n'ai pas la force. Mais aide-moi. C'est ça la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée que nous recevons de Dieu. Et le chrétien doit vivre dans cette logique-là, de la grâce. Amen. Le chrétien doit vivre dans cette logique de la grâce. Je me rappelle, on avait traité de cette question, une fois peut-être que certains d'entre nous vont se rappeler de ça, lorsqu'on parlait des questions difficiles et récurrentes. Et on avait traité un cas pratique, c'était une histoire qui est passée dans Enquête Impossible. Un homme qui a tué deux enfants et les grands-parents, donc l'un des enfants qui a été tué, donc c'était une fille, vivaient dans la tristesse, ils étaient en colère par rapport à cet assassin. Mais entre-temps, l'assassin, en prison, il s'est converti. Il est même devenu serviteur de Dieu, pasteur en prison. Il a envoyé des lettres pour demander pardon. Et à chaque fois, dans ces lettres, il signait « serviteur de Dieu ». Et les parents, les grands-parents, pardon, étaient dans la colère. Ils ont dit « on ne va jamais oublier ce que cet homme a fait ». Et il dit « on ne va même pas le pardonner ». Et il y a eu un débat ce jour-là. Et la question c'était « mais ces grands-parents qui ont toujours été corrects, qui n'avaient que cette fille-là, mais voilà qu'ils ont perdu leur fille, leur petite fille ». Mais en plus, l'assassin, lui, il s'est converti. Et même quand il était injecté, donc c'était une injection, pendant qu'il était injecté, il continuait à dire pardon. Et il est mort comme ça. Et la question, c'était, mais comment un homme qui a tué quelqu'un, en plus, non seulement il a tué, mais il a démembré, hein, il a coupé les membres de cette personne-là, de cet enfant, de cette fille-là. Alors comment comprendre qu'un homme comme ça, qui a fait du mal, puisse aller au ciel et que les parents, les grands-parents, qui ont toujours été corrects, qui ont payé leurs impôts, qui ont été corrects dans la société, qui sont parfois dans les associations, qui sont parfois dans des quartiers, dans tout ça, comment comprendre qu'eux, à cause du refus du pardon, s'ils meurent, ils partent en enfer, mais le mauvais, lui, il meurt, il va au ciel. Bien aimé, c'est humainement, c'est difficile, n'est-ce pas? On se dit, mais l'équation n'est pas équilibrée. L'équation n'est pas équilibrée. Il a tué, il faut qu'on le tue. C'est ça notre logique humaine. Mais la logique de Dieu, c'est la logique de la grâce. Il a tué, certes. Il y a eu une perte d'homme. Donc on ne peut pas faire revenir la personne qui est décédée. Mais s'il croit en Jésus, il est sauvé. Et il y a un exemple pratique dans la Bible. C'est le brigand à la croix. On ne sait pas ce qu'il a fait toute sa vie, mais pour être à la croix, c'est qu'il a été quand même un bon dur. Mais à la croix, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Le Seigneur dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Et humainement parlant, c'est difficile. On se dit, mais c'est pas bon pour ceux qui sont éprouvés, qui vont vivre avec ça. Et voilà que lui qui est tué, il va au ciel. Mais c'est ça. La logique de la grâce, c'est que Dieu aime les hommes, tout simplement. De même que Jésus nous a aimés sans rien exiger en retour, de même, il veut que nous puissions intégrer. Et comme je dis, on peut être correct dans tous les points. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas, je ne convoite pas, je ne prends pas la femme ou le mari d'un tel, je ne fais pas. On peut être correct dans tout ça, mais si on n'a pas, on ne vit pas avec la logique de la grâce. Comment on peut aimer les gens autour de nous? Parfois, on a affaire, même dans la famille, à des gens méchants, durs. On a fermé même le cœur, on s'est dit, bon, lui, c'est même pas la peine. Le Seigneur ne veut pas ça. La logique de la grâce, c'est croire que, Seigneur, même s'il est méchant, il est mauvais, mais je crois que même avant de rendre son dernier souffle, tu peux le toucher. Amen. C'est cela. Voilà l'équation. On s'est dit, mais le méchant qui a fait du mal, il demande pardon toute sa vie, hein. Pardon, pardon. Il a envoyé des courriers. Il est signé serviteur de Dieu. Et voilà que lui qui a tué, qui a coupé la femme, cette fille,
eh ben lui, il va au ciel. Et les parents qui ont toujours été justes, corrects, eh ben voilà, c'est eux qui iront peut-être, parce qu'on ne connaît pas la suite, peut-être qu'au travers de cette situation, ils se sont convertis, on ne sait pas. Mais c'est pour nous dire que la logique de la grâce, c'est quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Et Dieu veut nous faire entrer dans ça. Et dernier point, c'est la logique de l'amour. La logique de l'amour. Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette logique-là. Comme on est dit souvent lors des mariages et même souvent dans les prédications, c'est que lorsque on dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, mais Christ, Jésus, lorsqu'il nous a aimés, il nous a aimés tels que nous sommes. Il nous aime encore tels que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne répondons pas ou nous satisfaisons pas toujours aux attentes du Seigneur. On désobéit parfois, on tombe par-ci. On est rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu. Parfois, on résiste. Mais malgré tout, le Seigneur nous aime. Amen. Malgré tout, le Seigneur nous aime. Et cette logique-là, il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui l'ont. Parce que la Bible dit que Dieu, on le définit comme étant amour. Dieu est amour. Seul Dieu a cette qualité-là, je peux dire. Et puisque nous sommes de Dieu, nous aussi, nous l'avons par son esprit. Mais le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans cette logique-là. La logique de l'amour. Lorsqu'on aime, on n'attend pas, comme c'est écrit dans Romains 5, 8. On n'attend pas que les gens soient bons pour les aimer, non. Les gens peuvent être mauvais, mais on les aime quand même. Et quand on aime, on peut prier pour la personne. Quand on aime, on peut parler à la personne, même si elle nous chasse, même si elle est méchante. Quand on aime, on peut supporter la personne. Quand on aime, on peut accorder du crédit à la personne. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour croit tout. L'amour supporte tout. Et c'est dans cette logique-là que le Seigneur veut nous faire entrer. L'amour supporte tout. Amen. L'amour supporte tout. C'est dans cette logique que le Seigneur veut nous faire entrer. Et je prie que le Seigneur nous aide par rapport à tout ce qui a été dit. Tout n'a pas été dit, mais retenons l'essentiel. C'est que le Seigneur ne se contente pas, comme ce jeune homme, qu'on soit juste, correct, qu'on soit ponctuel à la réunion, qu'on soit là, qu'on modère, qu'on prêche, qu'on évangélise. Oui, tout ça est bien. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions intégrer sa logique. La logique du pardon, la logique du sacrifice, savoir se sacrifier pour les autres. Le culte commence à 10 heures. On se dit, ah, moi, je suis obligé, il faut que je sois là obligatoirement, alors que je sais qu'il y a une personne à 10h30 qui veut venir au culte. Le sacrifice, c'est de se dire, bon, Seigneur, ce que tu veux, ce que tu désires, c'est que je fasse un détour, même si j'arrive en retard, mais au moins, tous les deux, nous allons bénéficier du culte. Alors que si moi, je suis à 10 heures, l'autre qui est parfois peut-être handicapé ou qui ne peut pas se déplacer, eh bien, il va rater. C'est ça, la logique que le Seigneur attend de nous. La logique de mourir à soi-même. Accepter. Ce n'est pas de la résignation. J'accepte parce que je crois que le Seigneur me brise parce qu'il veut faire quelque chose en moi. Il veut m'apprendre quelque chose. La logique de la grâce. C'est ça. Comme on a donné cet exemple, voilà un homme qui a été méchant toute sa vie, mais finalement, qui est sauvé. Comment comprendre cela? Eh bien, le Seigneur veut nous faire rentrer dans ça, la logique de l'amour. On n'aime pas par intérêt. Ceux qui font des enseignements de base, ils savent. Amour agapé, c'est on parle de l'amour de Dieu. Que l'amour que Dieu a pour les humains. Parfois, on peut avoir un amour lié à la filiation, mais ça s'arrête là. Mais l'amour que Dieu veut, c'est un amour qui est sans intérêt, qui s'adresse à tout le monde. Un amour universel, c'est ça l'amour que Dieu veut que nous puissions manifester. Amen. Ne nous arrêtons pas à être corrects moralement, mais épousons la logique du Seigneur. Et comment le faire? C'est en étant des autres neuves. C'est-à-dire quoi? En étant nous-mêmes transformés par le Seigneur. Puisque sinon, ça ne marchera pas. On va rester pour dire, mais Seigneur, je suis correct, je suis bon, j'ai aidé un tel, j'ai fait ceci, j'ai donné ce... Mais lorsque les situations vont se présenter devant nous, on va refuser. Dieu dit pardonne, on dit ah non, Seigneur, là c'est trop dur. Il m'a fait tellement de mal. Le Seigneur lui dit non, ce n'est pas ça qu'il attend de nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle aujourd'hui ta volonté, qui me rappelle à moi-même, Seigneur, ce que tu attends de nous, Seigneur. Être chrétien, c'est accepter ta logique à toi, Seigneur. C'est accepter ta logique. C'est accepter, Seigneur, de mourir à nous-mêmes, Seigneur. Il peut se présenter des situations où nous avons raison, Seigneur. Mais nous paraissons comme avoir tort. Et si telle est ta volonté, Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à accepter cela, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à entrer dans la logique du sacrifice. Savoir se sacrifier, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, de toute forme d'égoïsme, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à Seigneur, être disponible, Seigneur, pour toi, mais aussi pour les autres, Seigneur. Cela peut demander, Seigneur, un effort, un sacrifice de notre part. Mais Seigneur, c'est ça que tu attends de nous. C'est ça que tu attends de nous. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans la logique du pardon. À réaliser, Seigneur, que Seigneur, nous devons pardonner parce que toi, tu nous as pardonné aussi, Seigneur. À nous rappeler, Seigneur, que nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler, Seigneur, que nous aussi, nous avons peut-être blessé, nous avons peut-être fait du mal, Seigneur, à quelqu'un, Seigneur, mais tu nous as pardonné. Alors pourquoi, Seigneur, garder rancune, Seigneur? Seigneur, libère-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à accepter la logique de la grâce. Et non du mérite, Seigneur. Parfois, il est bien facile d'être en accord, d'aimer ceux qui sont corrects aussi envers nous, Seigneur. Mais Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides. Il est écrit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce. Nous n'avons pas fait d'efforts, nous n'avons payé aucun frais, Seigneur, pour devenir tes enfants aujourd'hui. Nous avons cru par la foi. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à manifester cette nature aussi, de la grâce autour de nous, à ne pas être dans le jugement, à ne pas être dans la condamnation. Il est écrit, Seigneur, dans Jean 3, 17, que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à manifester cela. Aide-nous, Seigneur, à manifester l'amour. Tu as dit, Seigneur, que le monde reconnaîtra que nous sommes de toi, Seigneur. Si nous manifestons l'amour, Seigneur, donne-nous l'amour, Seigneur. Même pour les méchants. Donne-nous l'amour, Seigneur, même pour ceux qui nous ont blessés. Donne-nous l'amour, Seigneur, pour tous les humains, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.